Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le psaume 32 qui nous parle de la joie d'avoir nos fautes pardonnées. Et que nous soyons, à la suite de ce que tu nous dis ce matin, comme ceux à la fin de ce psaume qui se réjouissent en l'Éternel, qui soient dans l'allégresse, qui poussent des cris de joie parce que nous avons découvert le pardon en Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, nous t'en prions. Amen. Alors, il y a 10 jours, j'assistais, moi, à un camp chrétien en Suisse pour des familles. C'était un moment assez sympa aussi pour notre famille. Et je faisais un peu d'enseignement dans le livre des Actes. Pas de surprise pour ceux qui me connaissent qu'on était encore dans le livre des Actes. Mais il y avait une séance où nous avons dédié du temps à des questions-réponses. Et c'était juste après... le lendemain de ce qui a eu lieu à Crans-Montana, l'incendie dans ce bar ou cette boîte de nuit. Et donc l'une des questions était celle que d'une certaine manière nous entendons souvent si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Comment se fait-il, si Dieu il est bon, qu'il permet un monde dans lequel de telles choses arrivent, des femmes, c'était ça la question, des femmes sont abusées, des enfants sont nés handicapés. Et voici comment j'ai tenté de répondre à cette question. Je m'inspirais de quelqu'un d'autre, de ce que quelqu'un m'avait dit il y a à peu près, je pense, 30 ans, juste après ma conversion à moi. Ça m'a toujours frappé, cette réponse. Donc j'ai répondu avec une autre question. Pourquoi avons-nous choisi de vivre dans un monde dans lequel de telles choses arrivent? Pourquoi avons-nous choisi de vivre dans un monde dans lequel de telles choses arrivent? Et bien sûr, cette question-là provoque un peu de réflexion. Car bien sûr, nos a priori, j'imagine c'est le cas encore pour la plupart d'entre nous, c'est de penser que nous n'avons pas choisi un tel monde. Notre réflexe est de plutôt blâmer Dieu pour de telles choses. Mais, d'un point de vue biblique, cette question-là, elle est juste. Car le monde déchu dans lequel nous vivons, un monde dans lequel il y a de la souffrance, des larmes, de la mort, des catastrophes, tout cela est le résultat de ce que nous appelons la chute. Le malheur dont nous témoignons a ses racines là. Et la chute a eu lieu comment? Adam et Ève ont choisi de chercher leur propre chemin, indépendamment de l'autorité de leur Créateur et leur Maître. Ils ont douté de la bonté de Dieu, de la parole de Dieu, du jugement de Dieu, malgré l'avertissement qu'ils avaient reçu de la part de ce Dieu bon et grand. Ils choisissaient néanmoins le chemin de la rébellion. Alors, peut-être on peut plutôt blâmer alors Adam et Ève, c'est ça? Aurait-on fait, nous, un autre choix à leur place? Et la Bible nous dit que nous sommes nés en Adam, chacun d'entre nous. Il est le premier homme, notre représentant. Nous n'aurions pas donc fait autrement. Il nous représente. Nous appartenons à sa race. À sa place, nous aurions donc fait exactement la même chose. Et donc, nous revenons à cette question du départ. Pourquoi avons-nous choisi de vivre dans un monde dans lequel de telles choses arrivent? Le choix d'abandonner la voie de Dieu, de ne pas lui faire confiance, a fait de nous un peuple déchu. Et nous vivons dans un monde déchu, maudit. Nous pouvons conclure, quel terrible choix, n'est-ce pas? Quel terrible choix. Ça donne de quoi réfléchir la prochaine fois, nous cherchons trop vite à accuser notre Créateur et notre juge. Bon, bien entendu, ça, ce n'est pas la seule chose à dire lorsque quelqu'un pose cette question légitime. Mais c'est un élément important de réponse à donner lorsque les gens nous posent ces questions. Car cela nous met un peu plus, nous les hommes, sur le défensif qu'on était jusque-là. Cela nous aide, et c'est important, de nous approcher de Dieu, notre Créateur, avec un peu plus d'humilité qu'auparavant. Et gloire à Dieu, l'histoire de la Bible est une histoire du salut, où Dieu, il œuvre pour qu'il y ait un monde dans lequel, et je cite maintenant le dernier livre de la Bible, les premières choses ont disparu. Car la Bible termine avec Dieu lui-même, comme c'était le cas dans le Jardin d'Éden, qui habite parmi son peuple. Et là, nous lisons Apocalypse 21 qu'il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et notre texte de ce matin que nous venons de lire, Luc 5, que vous avez sous les yeux, nous donne non seulement un avant-goût de ce monde à venir, car nous avons affaire à deux miracles de guérison, qui restaure deux hommes de leur souffrance, un lépreux et ensuite un paralytique. Mais ce texte nous fournit également la clé pour pouvoir appartenir à cette nouvelle création que Dieu prépare, le royaume encore à venir. Et donc nous allons décortiquer le texte, vous voyez ça sur le plan, avec trois questions. Donc, quelle est l'autorité de Jésus? Quelle est la priorité de Jésus? Quelle est l'identité de Jésus? Et vous voyez les réponses déjà sur chacune de ces questions. Donc, d'abord, quelle est l'autorité de Jésus? Les deux épisodes, les deux miracles se sont déroulés, démontrent l'autorité de Jésus. Verset 18 de notre texte, la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Alors déjà, dans notre série, nous avons eu l'occasion de remarquer l'autorité de Jésus. Chapitre 4 sur Satan. Chapitre 4 encore sur les esprits mauvais, les démons. Sur la nature, début du chapitre 5, les poissons qui font ce que Jésus veut qu'ils fassent. Et sur les hommes, parce que Jésus, juste avant notre texte, il appelle à lui Pierre pour qu'il devienne un pêcheur d'hommes. Ici, donc, nous constatons de nouveau que Jésus, il a l'autorité sur la maladie. Mais il a également, le deuxième épisode nous le dit, l'autorité de pardonner le péché. Car c'est bien cette autorité-là qu'il met en avant lui-même lors de la guérison du paralytique. Verset 24, « Vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Et la première guérison du lépreux est un modèle de ce que l'autorité de Jésus de pardonner les péchés implique pour l'homme. Car cet homme-là, qui est malade, il est un lépreux. Et avoir de la lèpre à cette époque, c'était une maladie très grave. C'était associer la lèpre à la mort elle-même. Aaron, dans l'Ancien Testament, à propos de sa sœur Myriam, lors de la malédiction de la lèpre qu'elle a dû subir, il exclame quoi? Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Ou bien nous pouvons citer le roi d'Israël, Joram, lorsque Naaman lui écrit à propos de sa lèpre à lui. Le roi d'Israël déchira, le texte dit, ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» Donc vous voyez, la lèpre était associée à la mort. Bon, car la peau morte parlait visuellement de la mort. Et à cause de cela, cette maladie, sous le système de loi de l'Ancien Testament, rendait un homme qui avait la lèpre rituellement impur. Car ce qui faisait signe de la mort témoignait de notre monde déchu dans lequel nous vivons encore. Donc il subit ce monde, les conséquences de la chute dont nous avons parlé, là où la mort et le péché règnent, là où nous sommes loin de la vie du Jardin d'Éden, du monde tel que Dieu l'a conçu. Et donc, avoir de la lèpre, c'était devoir sortir de la ville, là où on était, être exclu du peuple, isolé des relations avec des autres. Oui, pour ne pas infecter les autres, mais aussi pour démontrer, alors de manière rituelle, que Dieu, lui qui est pur, qui est saint, il doit s'éloigner de tout ce qui est impur. Alors, soyons clairs, il s'agissait à ce moment-là d'une impureté rituelle, avoir la lèpre, pas morale. Mais toutefois, il fallait respecter ces consignes rituelles lorsque cette maladie se manifestait. Il y a des consignes dans le livre de Lévitique à propos de la lèpre. Normalement, donc, toucher un homme impur rendait la personne qui le touchait aussi impur. Donc, c'est déjà osé de la part de cet homme, dans cet épisode que nous avons dans Luc 5, de se trouver en ville. Normalement, il devait être en dehors de la ville. Ça témoigne du fait qu'il est désespéré. Et du coup, c'est un moment bien tendu lorsqu'il s'approche de Jésus, se prosterne devant lui et lui demande, Jonathan nous a cité ceci, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Comment est-ce qu'il allait réagir à ce moment-là, le maître, à propos de quelqu'un qui a de la lèpre? Tu vois ça? Il a touché. Je le veux. Sois pur. Bon, il n'a même pas de gants, de désinfectant, pas de masque. Et il risque, lui, de le toucher. Et la conséquence, dit le texte, aussitôt, la lèpre le quitta. Comme Élisée, le prophète, a guéri Naaman, dont déjà l'évangile de Luc a mentionné Élisée et Naaman, chapitre 4, verset 25, Jésus, lui, guérit le lépreux, sans qu'il devienne, lui, impur. Car Jésus peut rendre pur ceux qui sont impurs. La guérison du paralytique, deuxième épisode de notre texte, elle est opérée, elle, par la parole de Jésus. Vous voyez ça, car la parole est puissante pour effectuer sa volonté. Verset 24, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Résultat, bah de même, aussitôt, l'homme fait ce que Jésus lui a ordonné de faire. Donc, Jésus aurait pu faire de même avec le lépreux. Il aurait juste pu parler, déclarer sa pureté. Mais en fait, il fait exprès de le toucher. Pourquoi? Ben, que cela donne un signe visible de la restauration que cette guérison opère. Au lieu d'être éloigné des autres, tout d'un coup, cet homme, il est accepté. Au lieu donc d'être séparé de Dieu rituellement dans toute sa pureté, il peut dès lors demeurer de nouveau avec Dieu. Et donc pour être réconcilié avec Dieu, lorsque notre impureté, qui n'est pas rituelle, mais réelle dans notre cœur, il faut que le péché de ce qui rend notre cœur impur soit pardonné. Et donc, du coup, oui, cette guérison du lépreux anticipe ce que la deuxième guérison rend explicite. Jésus possède l'autorité pour nous réconcilier à Dieu, car il a, lui, l'autorité de pardonner les péchés. Et cela nous pointe dans vers ce monde que Jésus proclame, qu'il inaugure ce monde rétabli lorsque Dieu demeurera définitivement parmi les hommes, un monde dans lequel Dieu habitera avec nous. Nous serons son peuple et Dieu lui-même sera avec nous. Jésus, déjà dans l'évangile de Luc, il a annoncé qu'il est venu pour instaurer ce royaume. Si vous allez en arrière, chapitre 4, verset 18 et suivant, que dit-il? Il cite le prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc vous voyez, ces guérisons témoignent de son autorité à réaliser ce royaume encore à venir dans toute sa splendeur. Et du coup, la guérison complète et permanente des handicaps, des malades, des lépreux, ne sera pas possible jusqu'à ce que le temps vienne, pour citer un autre écrit de Luc, acte chapitre 3, verset 21, l'apôtre Pierre qui parle après une autre guérison qu'il a effectuée, jusqu'à ce que le temps vienne où Dieu rétablira tout, comme il l'a promis depuis longtemps par ses saints prophètes. Acte 3, verset 21, cela. Donc, jusque-là, quelle est l'autorité de Jésus? Celle de restaurer, de réconcilier. Et vu cela, je pense qu'il n'y a pas de surprise de voir que la priorité de Jésus, c'est laquelle? Notre deuxième point, celle de pardonner. Toute l'histoire de cette deuxième guérison tourne autour de cet objectif-là. Et de fait, comprendre cette priorité aux pharisiens et aux enseignants de la loi, qui étaient, eux, verset 17, assis dans l'auditoire, ce qui arrive est la suite, verset 18. Les quatre hommes courageux portent le paralysé sur un brancard. Ils n'arrivent pas à pénétrer dans la maison car il y a simplement juste trop de monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit. Oui, cela est envisageable parce qu'à l'époque, il y avait souvent un escalier externe pour monter sur le toit plein de l'époque. Et après avoir ménagé, nous dit le texte, une ouverture dans les tuiles, ils font descendre le paralysé sur le brancard. Nous pouvons imaginer cette scène. C'est un peu comme aujourd'hui, où, quand est-ce qu'on voit cela? Lorsqu'on descend un cercueil pour l'enterrer, souvent quatre cordes autour du cercueil pour que ça puisse descendre. Chacun donc tient une corde en tension au même rythme. C'est un peu délicat lorsqu'on fait cela. C'est quand même assez physique, on dirait, assez audacieux de leur part de faire cela pour que cet homme arrive au pied de Jésus. Nous pouvons imaginer cette scène avec le brancard qui descend un peu du ciel pour ceux qui sont dans la pièce. Ils sont, ces hommes, bel et bien déterminés à faire le nécessaire pour que Jésus, dont la réputation nous précédait, d'après le verset 15 de notre texte, fasse ce que lui seul peut faire, guérir cet homme. Donc d'où vient le choc lorsque Jésus ouvre sa bouche? Verset 20. Mon ami, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Ah non, non, justement, c'est pas ça ce qu'il dit. Il dit, non, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Bah écoute, c'est gentil, tu sais, mais c'est pas ça ce que je cherche. Je cherche mes amis qui m'ont porté jusqu'ici, cherche la foule qui est rassemblée ici, cherche quoi? Bah cherche à ce que tu me guérisses. Ne me dis pas que nous avons fait tout ce déplacement pour rien, que tu me laisses encore dans le désespoir de rester sur ce brancard, tandis que d'autres personnes, je pense au lépreux qui m'a précédé, tu l'as guéri. Mais Jésus, il vise plus loin. Car pour pouvoir bénéficier d'une santé qui dure, sans larmes, sans tristesse, sans la mort, dans ce monde rétabli par Dieu, il faut que nos péchés nous soient pardonnés. Mais Jésus, il sait cela. Et les guérisons qu'il opère sont des avant-goûts de ce monde à venir, du royaume de Dieu que le roi Jésus est venu pour inaugurer. Imagine pour un moment que c'est toi, ici présent, qui descends sur un brancard, d'une certaine manière, et tu te trouves au pied de Jésus-Christ. Quel est ton grand besoin du moment? Peut-être, comme le paralytique, vous ressentez ce besoin depuis un très long moment. Le besoin que tu aimerais au-dessous de tout, qu'il règle. J'ai des besoins de santé que j'aimerais qu'il règle. C'est ça ce qui me pèse le plus. Peut-être en ce début d'année, j'ai des besoins financiers qui me guettent, dont j'ai honte. Et j'aimerais tellement qu'il règle cela. Peut-être j'ai des besoins relationnels qui me guettent depuis maintenant de longues années. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Peut-être je vis dans un contexte familial très tendu. Et cela depuis un long moment. J'aimerais qu'il règle cela. Peut-être j'ai des problèmes professionnels conséquents. Comment s'en sortir? Mais Jésus-Christ a une priorité au-dessus de tout autre. Que tes péchés te soient pardonnés. Oui, jusque-là, ta façon d'avoir dans ton cœur décidé de ne pas se soumettre au Dieu créateur, de chipoter avec ta conscience, est-ce que tu connais déjà de Dieu dans sa parole, pour que lui, il tourne autour de toi au lieu de toi qui tourne autour de lui. Le péché, vous savez, avant d'être un acte, quelque chose que nous faisons, c'est une attitude qui rejette l'autorité de Dieu, qui ne veut pas, comme Adam dans le jardin d'Éden, faire confiance à ce que Dieu dit, qui se détourne donc de la bonté de Dieu par conséquent. Parfois poliment nous faisons cela, sans forcément que les autres voient cela. Parfois nous faisons cela de manière plus évidente, rebelle, et on est un peu fier de notre rébellion. Mais dans les deux cas, le péché cherche à remplacer l'autorité de Dieu avec ma propre autorité pour ma vie. Et à cause de cela, l'humanité dans son ensemble, au lieu de trouver la liberté que ce péché promet, se trouve enfoncée encore dans un monde où les conséquences de notre péché abondent, pour nous-mêmes bien entendu, mais aussi pour d'autres. Au lieu de pouvoir être en communion avec le Dieu qui nous a créés, nous sommes séparés de lui, éloignés de lui, comme c'était le cas symboliquement, rituellement, pour le lépreux. Et le jour où nous nous trouvons devant lui, devant le Seigneur, et nos comptes seront réglés devant lui, notre péché nous déclare coupables. Définitivement coupables. Et donc oui, le péché et la culpabilité réelle que cela engendre est notre plus grand problème. Bien sûr, ici, il n'y a rien qui indique que le paralytique, lui, souffre de son handicap parce qu'il a péché de façon à ce que son handicap soit la punition qu'il subit en conséquence. Il n'y a pas un lien direct ici de cause et effet entre ses péchés et ses souffrances, tout comme c'est rarement le cas où c'est aussi un lien cause et effet entre mes péchés et mes souffrances. Bien que je pêche et bien que je souffre aussi dans ce monde déchu. Mais nous vivons dans un monde taché, oui, par le péché, dont les conséquences sont multiples, y compris la présence de la souffrance parmi nous. Et cet homme, comme tout homme, n'est pas quitte du péché, car il a un besoin plus important que sa guérison. Jésus sait cela. Et Jésus donc se sert de cette occasion pour faire comprendre aux autres qu'il est venu afin de régler ce problème de péché. Nous ne comprendrons, chers amis, jamais ce que Jésus est venu faire ici sur terre, tant que nous continuons dans nos cœurs à vouloir nous servir de Jésus pour qu'il règle des problèmes inférieurs aux problèmes du péché. La priorité de Jésus n'est pas la maladie, le solde de notre compte en banque, notre conflit relationnel ou familial, notre difficulté professionnelle. Certes, il n'est pas indifférent à ces difficultés, mais là où il met l'accent est ailleurs. Régler le problème du péché est ailleurs, et cela donnera une perspective toute autre, plus saine, à propos de mes problèmes du moment, bien qu'il s'agisse des problèmes parfois conséquents. Plus bas dans ce chapitre, Jésus dira qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. On réfléchira encore la semaine prochaine à cela. Revenons brièvement à l'épisode avec le lépreux. Car une fois guéri, Jésus lui dit, verset 14, « Mais lui dit-il, va te faire examiner par le prêtre, et pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Car là, cela le servira de témoignage. » Mais pourquoi Jésus dit cela? Car pour que quelqu'un exclu du peuple par impureté rentre, fait partie de nouveau du peuple, il fallait que le prêtre examine une telle personne, déclare oui, sa pureté maintenant rituelle est réinstallée. Et pour cela, le livre de Lévitique dit au chapitre 14 que le prêtre lui-même devait sortir de la ville, du camp, offrir lui des sacrifices de purification, après quoi le réadmission dans le camp, dans la ville, pouvait avoir lieu. Alors, la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 13, verset 12, à propos de Jésus, nous dit que Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors du camp. Il sortait de la ville, à Golgotha, sur la croix. C'est là où Jésus subit l'opprobre de notre impureté, la honte, l'exclusion, le bannissement de la présence de Dieu, le jugement de Dieu qui tombe sur lui. Mais parce que son sang a coulé à la croix, il purifie tous ceux qui se tournent vers lui. C'est ainsi, chers amis, qu'il pardonne les péchés. C'est pour cette raison que, pour avoir accès donc à ce monde nouveau qu'il prépare, à la nouvelle Jérusalem qui un jour descendra du ciel, il n'entrera, je cite l'Apocalypse de nouveau, que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau, Jésus-Christ lui-même, qui s'est sacrifié pour nous, qui a porté nos péchés sur le bois. Donc l'autorité de Jésus, la priorité de Jésus, et on termine, oui, avec l'identité de Jésus. Au verset 21, les spécialistes de la loi, les pharisiens, ils arrivent vite à leur conclusion lorsque Jésus déclare aux paralytiques que ses péchés lui sont pardonnés. Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? La deuxième partie de la phrase est juste. Ils sont des théologiens, après tout, ils ont bien compris cela. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Car le péché est ultimement une rébellion contre Dieu. Oui, c'est clair que si quelqu'un pèche contre moi, je peux lui pardonner son péché. Mais ici, il s'agit de l'ensemble des péchés de quelqu'un. Moi, je ne peux pas pardonner l'ensemble des offenses de quelqu'un d'autre. Alors, j'aimerais que vous imaginez pour un moment que Alexandra, elle est encore à l'accueil. Est-ce qu'elle est là? Elle est toujours là à l'accueil. Alors, Alexandra, ceci n'arrivera jamais. Mais imaginons que je suis rancunier envers toi, Alexandra, parce que tu ne m'as pas salué comme il fallait quand j'entrais dans le bâtiment. Et ensuite, je prends Alex parce qu'il est devant moi. Alex, il vient me trouver pour me dire qu'il pardonne mon offense contre Alexandra. Mais qui es-tu de me pardonner pour quelque chose qui ne te concernait pas? Toi, tu ne peux pas me pardonner pour cela. Alors de même, lorsqu'il s'agit de l'ensemble de mes péchés, il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut faire cela. Et donc les pharisiens et les spécialistes de la loi, ils ont raison. Mais la première partie de ce qu'ils affirment au verset 21 est fausse. Cet homme prononce des paroles blasphématoires. Non, car cet homme n'est pas n'importe quel homme. Non, verset 24. Il est le Fils de l'homme qui a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme est un titre que Jésus réclame pour lui-même, qui est tiré surtout du livre de Daniel, le chapitre 7. Et dans la vision de Daniel, dans ce chapitre, un personnage semblable à un homme, un personnage donc humain, arrive avec les nuées du ciel devant l'Ancien des Jours pour recevoir l'autorité, la gloire et le pouvoir souverain sur toutes les nations. Le jugement de Dieu sur les nations précède la remise de pouvoir et de l'autorité à ce souverain céleste, ce Fils de l'homme. Daniel apprend ensuite que sa vision concerne le salut du peuple saint du Très-Haut grâce à la défaite de ses ennemis. Donc Jésus est le Fils de l'homme qui, parce qu'il a l'autorité confiée par Dieu et l'agent par lequel Dieu opère le salut. Grâce à lui, le pardon des péchés est possible. Et non seulement il l'affirme, mais ensuite il le démontre. Verset 22, Jésus connaissait leur raisonnement. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Verset 23, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Alors, bien que c'est possible de croire que Jésus pose la question parce qu'il veut affirmer que tes péchés te sont pardonnés est plus difficile à dire, j'ai échangé rien que cette semaine avec James là-dessus parce que c'est toujours pas super facile à comprendre. Je pense que le contexte de cette question et ce qui suit après qu'il pose la question signifie que ce qui est plus facile, c'est dire tes péchés te sont pardonnés. Car une telle chose ne peut pas être vérifiée visuellement. On ne peut pas prouver qu'elle est fausse, ce qu'il affirme là. L'affirmation donc de Jésus de pardonner les péchés du paralytique, est-elle une parole vide de sens ou est-elle réelle? Comment savoir? La déclaration de pardon de Jésus est-elle soutenue vraiment par la parole et la puissance de Dieu? Verset 24. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara au paralysé, alors cette fois-ci, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il fait ce qu'on peut voir visuellement pour affirmer ce qu'il peut faire spirituellement. Verset 25, aussitôt devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Les deux guérisons que nous avons vues ont donc cette fonction d'attester le message que Jésus proclame. Et Pierre, plus tard, acte chapitre 2, lorsqu'il se met debout pour proclamer pour la première fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, verset 22, il dit quoi? Cet homme, il parle de Jésus, cet homme a prouvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Les guérisons nous invitent donc à arriver à la conclusion qui est juste. Quelle conclusion? Que Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés, car il a l'autorité que seul Dieu possède. Quelle est la réaction de ceux qui sont présents? Verset 26. Tous furent saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte par parce qu'ils voient, ils sont dans la présence de quelqu'un qui va au-delà de ce qu'ils arrivent à comprendre, disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Amen. Amen. Dieu, Luc raconte ces épisodes car il contribue à la certitude, l'assurance que nous pouvons avoir dans notre foi en Jésus-Christ. Jésus a l'autorité de Dieu lui-même. Que ce qu'il dit à propos donc du pardon de nos péchés est digne encore aujourd'hui de notre confiance, de votre confiance. L'épisode suivant, on verra ça la semaine prochaine, Jésus appelle des pécheurs à lui, Lévi, un collecteur d'impôts. Sur quelle base ose-t-il croire, les collecteurs d'impôts, que Jésus les pardonne? Sur base de l'autorité que Jésus démontre ici par ses miracles. Jésus parle de son autorité en tant que fils de l'homme sur la terre. Vous avez vu ça? Plus tard dans l'évangile de Luc, chapitre 22, 69, Jésus dira que le Fils de l'homme, après la mort et la résurrection de Jésus, est assis à la droite de la puissance de Dieu. Et du coup, aujourd'hui, assis là où il se trouve, à la droite de Dieu, il permet d'offrir non seulement le pardon des péchés ponctuellement sur terre à ceux qu'il croise lors de son ministère terrestre, mais à tous ceux qui font appel à lui. Tous ceux ici présents encore qui font appel à lui. Et donc voilà, chers amis, il était temps qu'on arrive à notre conclusion. Bravo si vous êtes maintenant encore plus froid qu'avant. Mais voici la conclusion. Comment devons-nous nous approcher de Jésus aujourd'hui? Et oui, les deux épisodes nous fournissent de quelques petits éléments, n'est-ce pas? D'abord, nous devons reconnaître notre besoin de son aide, car les deux hommes malades n'ont pas peur de reconnaître leur besoin de guérison. Pour eux, c'est une évidence. C'est parce qu'ils se reconnaissent malades qu'ils cherchent ce que Jésus peut leur donner. Et cette humilité-là doit également se manifester lorsqu'il s'agit de notre plus grand besoin, chers amis. Au lieu d'insister que non, notre plus grand besoin est ailleurs, nous sommes appelés à reconnaître notre plus grand besoin est celui de notre péché. Au lieu de dicter à Jésus là où il doit agir, nous sommes appelés à nous confier nos vies là où il nous dit qu'il doit agir. Et parce qu'il a l'autorité qui vient de Dieu, il est digne, chers amis, de notre confiance. Bien que certains de nos problèmes ne soient pas forcément réglés d'ici la nouvelle création, il prendra soin de nous. Pas forcément en enlevant tout autre problème, mais en nous accordant la grâce de persévérer d'ici le jour où toute chose sera renouvelée, dont nous devons reconnaître notre besoin. Mais deuxièmement, nous devons aussi reconnaître l'autorité que Jésus il a pour régler notre besoin. Verset 2, verset 12, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 20, « Lorsqu'il vit Jésus, la foi de ces gens. » Ces hommes comprenaient que Jésus pouvait les aider. Et d'une certaine manière, ils ont enfreint les conventions sociales afin de parvenir à Jésus et ce qu'il offre. Le lépreux, en venant dans la ville pour chercher Jésus, pour même vouloir toucher Jésus, le paralytique, avec l'aide de ses amis, en descendant via le toit. Peu importe ce que les autres pensent de moi, ce que Jésus m'offre, c'est ça ce qu'il me faut. Donc, grâce aux épisodes que nous avons vus, l'ensemble du Nouveau Testament, nous voyons, nous, l'étendue de l'autorité de Jésus, plus que le paralytique, plus que le lépreux. Jésus est le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu. Il a toute autorité de régner, de juger, de pardonner. Comprendre cela, il n'y a rien de plus important. Et nous trouverons moyen de briser les conventions sociales de notre contexte qui nous empêchent parfois de se mettre devant Jésus-Christ. S'agit-il de la famille qui pense que la religion protestante doit être un secte? Et donc, de vraiment m'approcher de Jésus, ben, je garde ma distance. S'agit-il des amis qui me traiteront avec un peu de moquerie de voir que réellement je prends Jésus-Christ au sérieux? S'agit-il d'un conjoint qui comprend difficilement mes démarches dans la foi? Ou bien s'agit-il de quelque chose en toi qui cherche à relativiser ce que Jésus nous offre? Un amour pour quelqu'un que je ne veux pas lâcher, qui m'empêche de vouloir vraiment vivre pour Jésus. Un désir de rester accroché à une ambition, une pratique que je ne veux nullement soumettre à Jésus-Christ. Admirer, si vous voulez, Jésus de loin, comme si moi je suis là, sans s'approcher de lui, car nous savons que ça va être trop coûteux de m'approcher de lui. C'est de passer de côté du pardon qu'il nous offre. C'est de choisir un monde maudit sous le jugement de Dieu qui nous éloignera définitivement du monde parfait que Dieu prépare pour ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Chers amis, j'aimerais terminer en disant quel terrible choix si vous êtes en train de cheminer vers ce choix-là. Au lieu de voir la grandeur de ce monde, l'attrait du péché, ce texte, surtout ce texte, nous invite à voir la grandeur de Jésus-Christ et par conséquent de nous confier en lui. Je prie.